Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue à Radio Créum. Éthique en série avec Martin Winkler et Daniel Weinstock.
Parlons de Mad Men, série que j'ai découvert il y a quelques semaines. Alors, l'anecdote vaut le détour. Je revenais de France, justement, et j'hésitais entre un livre de philo et les petits écrans 3 cm par 3 cm que nous avons qui sont sur le siège devant, où il y a maintenant, sur Air Canada, une sélection. On peut choisir des émissions de télé, on peut choisir toutes sortes de choses. J'avais entendu parler de Mad Men, mais je ne savais pas de quoi il s'agissait. Je savais que la série avait remporté, contre toute attente, le Emmy de la meilleure série dès sa première année. Mais comme c'était une série qui passait vers 20h et que j'étais encore près avec les enfants, j'avais décidé de ne pas y porter attention. Mad Men, je me disais que ça doit être un truc tourné dans un asile, ce qui n'est pas entièrement faux, en fait.
C'est pas faux.
Les trois premiers épisodes, donc, étaient offerts sur Air Canada. J'ai décidé que j'allais regarder le premier. J'ai dévoré les trois épisodes. J'ai regardé partout sur l'écran pour voir s'il n'y en avait pas un quatrième ou un cinquième qui se cachait. Et dès mon retour, j'ai acheté l'intégrale de la première année parce que c'était vraiment quelque chose que je ne m'attendais absolument pas. Alors, Mad Men, qu'est-ce que c'est en un mot? C'est une série qui se passe sur Madison Avenue. Donc, au premier degré, Mad Men, c'est les hommes de Madison Avenue qui travaillent pour des compagnies qui font de la publicité. Donc, qui font les relations publiques pour le rêve américain tel qu'il est conçu à la fin des années 50, donc l'époque Eisenhower et le début des années 60, période pendant laquelle la série est tournée, donc les années Camelot, les années Kennedy. Mad Men, c'est aussi, au second degré, littéralement des hommes qui sont fous, dans une certaine mesure. Il y a une certaine folie qui règne sur cet univers donc, de cette boîte de publicité dont nous pourrons parler. Tu m'as fait remarquer qu'il y avait un troisième degré auquel je n'avais pas pensé, qui est que Mad Men, c'est une façon de dire très vite « Married Men ». Presque tous les personnages sont mariés, vivent des relations avec leurs femmes qui sont de différentes manières insatisfaisantes et qui ne semblent jusqu'à un certain point être heureux que lorsqu'ils se retrouvent entre eux, en train de rire, de boire, de fumer. Hein, alors, il faut savoir que pour les gens qui essayent d'arrêter de fumer, ce n'est peut-être pas la série à regarder, parce qu'on y fume. Mais alors là, qu'est-ce qu'on y fume ? La sensualité, moi, je dois mettre mes vêtements au lavage pour sortir la fumée de cigarette après avoir regardé cette émission. Non seulement on y fume beaucoup, mais on y fume de manière complètement libre et en affirmant haut et fort la sensualité de la cigarette.
C'est d'ailleurs un des sujets. C'est d'ailleurs le sujet d'un des premiers épisodes, justement, dans lequel ils viennent de découvrir, enfin on vient de sortir un certain nombre d'études montrant que le tabac provoque le cancer du poumon et que c'est mauvais pour la santé, et ils disent maintenant on ne va plus pouvoir faire des publicités pour les cigarettes qui disent c'est bon pour votre santé de fumer, parce que c'était le cas auparavant.
Ouais.
Et donc ils sont obligés de trouver autre chose, et justement c'est ce premier ou ces deux premiers épisodes dans lesquels le personnage principal Don Draper invente un nouveau slogan. Il est d'ailleurs, dans la première séquence, il est assis dans un bar et il demande en fait une cigarette au serveur qui est noir. Alors en plus, ça parle aussi des relations de classe, bien entendu, parce que le serveur est noir et donc il lui répond à peine. Et il lui dit, mais qu'est-ce que vous fumez ? Alors il lui tend ses cigarettes, ce sont des cigarettes de troupe. Là. Non, c'est pas des Lucky Strike, c'est lui qui fume des Lucky Strike. Mais lui, il fume autre chose, je ne me rappelle pas du nom. Et il lui dit, en fait, je les ai toujours fumés parce qu'on me les a donnés au régiment, enfin à l'armée. Et depuis, je les ai toujours fumés. Et il dit, mais pourquoi vous fumez ? Et il dit, because it feels good. Ah oui, c'est bien ça. Et il marque sur son apron en papier, il marque les arguments que l'autre lui donne. parce qu'ils cherchent justement des arguments pour pouvoir vendre des Lucky Strikes ou une autre
il y a une scène merveilleuse où ils sont en train de parler avec le président de la compagnie Lucky Strike qui a des procès qui lui sont intentés. Il y a toutes sortes de choses qu'on ne peut plus dire à propos de la cigarette. Et alors, ce qui est très clair, c'est que toutes les cigarettes sont produites à peu près de la même manière. Mmh. Il n'y a pas véritablement, au niveau du goût ou au niveau de la manière de produire les cigarettes, de différence qui pourrait faire de sorte qu'on puisse dire à propos d'une cigarette celle-là est meilleure parce que X. Et alors, il lui demande de décrire le processus. Qu'est-ce que vous faites avec le tabac lorsque on coupe le tabac, ensuite, we toast it. Et lumière dans la tête de Don Draper, donc personnage dont nous allons parler dans un instant, there we have it, it's toasted. Ce qui est devenu le véritable slogan de la cigarette Lucky Strike pendant des années et des années. Lucky Strike, they're toasted. Ce qu'on ne dit pas, c'est que toutes les cigarettes le sont également, puisque c'est la manière de produire le tabac pour qu'on puisse le fumer, mais c'est devenu un slogan qui a extrêmement bien marché. Il y a un discours, il y a dans toute cette série, sur ce qui est devenu la publicité qui n'a plus pour fonction de décrire des sujets, mais de créer des associations, associations entre des objets de consommation les plus vulgaires et les plus quel est le mot que je cherche,
les plus simples, les plus anodins, oui.
Et des choses qui ont de la signification pour les individus, des choses qui peuvent évoquer des sentiments plus profonds que le produit lui-même. Mais on y reviendra. Au cœur de cette émission, alors je dois dire, un des personnages les plus intéressants que j'ai jamais vu à la télévision, qui s'appelle Don Draper. Don Draper, c'est le directeur de la division de la création dans cette compagnie de publicité. C'est un personnage qui, quand on le voit pour la première fois, semble incarner le rêve américain. Il est grand, il est beau, il est carré, il a une femme qui est belle, il a deux enfants qui ont l'air parfaits.
On fait connaissance de sa petite amie avant de faire connaissance de sa femme.
Alors, c'est vrai. Mais a priori, c'est un personnage qui semble tout avoir.
Oui.
Le génie de ce personnage et le génie de l'acteur qui incarne ce personnage, qui est un acteur qui était avant inconnu, je crois, qui n'avait à peu près rien fait, qui va devenir un icône avec ce personnage, c'est de nous montrer en quelque sorte les fissures dans le rêve américain. Ce type qui, d'un côté, incarne parfaitement le rôle qui lui est imparti dans sa compagnie, c'est lui qui pense aux idées géniales, c'est lui qui trouve le hook de toutes les campagnes publicitaires qui les transforme véritablement en campagnes publicitaires qui fonctionnent, mais en même temps celui qui peut voir que le côté façade de tout ce qu'il fait, qui semble aspirer à quelque chose de plus. Sa petite amie, la première que l'on rencontre avant de rencontrer sa femme, est une artiste, une poétesse ou une peintre,
une
bohème qui vit dans Greenwich Village et dont il semble être véritablement amoureux. Il y a toutes sortes de scènes où on peut le voir, en même temps qu'il incarne donc parfaitement son rôle, par toutes sortes de manières et par toutes sortes de gestes, il voit ce qu'il y a, il voit en quelque sorte ce qu'il y a derrière. Donc le génie du personnage de Don Draper, c'est de nous permettre de voir si ça n'avait été qu'une sorte de critique de la société de consommation qui nous montrait la société de consommation américaine comme n'étant que de la façade, comme n'ayant aucune valeur, comme n'étant comme ne produisant qu'un bonheur de pacotille, ça aurait été une caricature tout à fait cliché, tout à fait standard, comme il y en a eu des centaines depuis les années 60. Mais la force de ce personnage et la force de la série, c'est de nous permettre de voir les deux côtés de la médaille, c'est-à-dire de voir pourquoi des gens ont pu croire et continuent à croire autant au rêve américain dans sa forme Mad Men, tout en, lorsqu'ils sont lucides, étant parfaitement capables de voir ces dessous. Je ne sais pas si tu connais un écrivain américain qui a surtout écrit dans les années 60 et 70 qui s'appelle John Cheever.
Non.
Alors John Cheever écrivait des nouvelles, et c'était également un romancier, mais ses plus grands succès ont été à travers ses nouvelles, où il décrivait la vie de ces gens qui habitaient les banlieues dortoirs de New York, donc dans le Connecticut, dans le New Jersey, qui avaient tout, hein, mais qui aspiraient à quelque chose de plus, sans pouvoir le nommer.
Les 9-to-5 men,
les commuters. Et leurs femmes. Et le personnage de la femme de Don Draper est également un personnage fascinant.
Fabuleux, oui.
Une ex-mannequin, donc une belle femme, dont on découvre tôt dans l'émission qu'elle souffre peut-être d'un mal psychique que l'on ne nomme jamais. Elle est traitée par un psy. Alors, il y a tout un... Toi, médecin, tu dois adorer la relation à trois qui se met en place entre
avec
le psy,
le psychiatre, oui.
Le mari et la femme.
Oui, parce que c'est, en fait, on comprend que c'est plus ou moins Don qui paye les séances de psychanalyse à sa femme, mais il demande des renseignements au psychiatre.
Il l'appelle tous les deux, trois soirs pour voir comment ça se passe.
Voilà.
Et le psy n'est absolument pas contraint par quelconque considération de confidentialité. Il lui livre absolument toutes ses observations sur... sur sa femme. Donc, au cœur de l'émission, ce personnage, Don Draper, personnage génial, personnage avec un passé intéressant, un passé qu'il cherche à réprimer.
Mais c'est un personnage qui est clivé, parce qu'on se rend compte que, par exemple, son enfance a été clivée, parce qu'il a été adopté, et il a été élevé dans un monde qui est vraiment très très différent de celui dans lequel il vit au moment où la série se passe. Et puis, à un moment donné, il a pris une décision, alors je ne la révèle pas, mais il a pris une décision... radical qui a changé sa vie et qui fait que c'est ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que c'est un homme qui sait très bien que la publicité n'est qu'une façade, c'est parce que lui-même, il n'est qu'une façade. Enfin, en tout cas, il est la façade de lui-même. Il est en représentation, pour des raisons qu'on découvre à la fin de la première saison, il est en représentation et donc il sait très bien que quand il fait de la représentation, il exprime quelque chose qui est extrêmement personnel.
Oui. Bon, autour de lui, il y a tout un univers de personnages qui gravitent, qui sont des auteurs, des romanciers, des artistes ratés, ou plus ou moins ratés, parce qu'il y en a un qui va faire publier une nouvelle dans The Atlantic, ce qui suscite la jalousie de tous ceux qui l'entourent. Donc, tous des gens qui aspirent à quelque chose peut-être de plus, tous des êtres insatisfaits, mais qui trouvent leur compte pour l'instant en faisant donc de la publicité pour cette grande firme. Alors, il y a quelque chose de très intéressant sur un discours très intéressant également donc sur la société de consommation. On dit souvent que les Américains, et c'est quelque chose qui m'a frappé lorsque j'ai voyagé dans d'autres pays pour la première fois, notamment en Asie, que j'ai comparé les publicités américaines aux publicités asiatiques. On dit souvent que l'Amérique est la société de consommation par excellence, alors que la publicité américaine, très souvent, nie en quelque sorte le caractère purement objet de consommation, des objets de consommation qu'elle vend. La culture américaine est une culture de consommation, à n'en pas douter, mais une culture de consommation qui a toujours cherché à se représenter comme étant quelque chose de plus, aspirant à des valeurs spirituelles. Et alors, il y a des publicités que l'on peut voir en allumant la télévision au hasard, même aujourd'hui, où un objet aussi quotidien que le papier toilette est présenté comme menant ou tendant vers des valeurs spirituelles profondes. On va souvent vendre des produits de manière complètement factice, en les présentant comme étant non pas ce qu'ils sont, des voitures, des rouleaux de papier toilette, mais des clés vers quelque chose de plus. Oui. Vers quelque chose de plus.
Un mieux-être.
Une scène qui pour moi est une pièce d'anthologie, si on devait faire un DVD des 25 meilleures scènes de la télévision américaine, je pense que celle-là devrait y être. La compagnie donc pour laquelle travaille Don Draper a eu un contrat de Kodak. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'invente pas complètement les compagnies, on n'invente pas les produits. On parle de American Airlines, on parle de Kodak, on parle de Lucky Strike. Donc Kodak qui vient d'inventer le lecteur de diapositives. Mm-hmm. Pour nos jeunes auditeurs, la diapositive, ça fait peut-être partie du passé, mais peut-être qu'ils s'en souviennent dans les garde-robes de leurs grands-parents. Donc le carrousel de diapositives, après manger, on éteignait les lumières, on mettait les diapos dans le carrousel de diapositives et on regardait défiler à l'écran ou sur le mur les photos des vacances de l'année dernière. Alors le terme carrousel est rentré et devenu, on ne peut pas imaginer un monde dans lequel le lecteur de diapositives n'était pas donc un lecteur de diapositives avec dessus un carrousel. On imagine dans l'émission l'invention du mot carrousel. Le carrousel, après tout, ça a quelque chose de... c'est le parc d'attractions, c'est le carrousel
manège,
sur lequel les enfants vont, c'est le manège. Au départ, Kodak voulait baptiser cet objet la roue, the wheel. Et on demande à Don Draper de trouver une manière de vendre l'idée d'une roue. Pendant toute l'émission, en regardant ses propres photos, les photos de ses enfants, il se dit « Mais comment est-ce que je vais vendre ce machin-là ?» Tout évidence, un déclic se fait. Et on a droit à la séance de vente où Don Draper vend son idée donc, aux gens de Kodak et où il fait un discours qui met l'alarme à l'œil de tout le monde dans la salle et peut-être de certains téléspectateurs, où il dit « Ce que nous allons vendre, en quelque sorte, aux gens, c'est leur passé. » Hein, c'est leur enfance, c'est leur rêve. Et défile devant les yeux donc, des gens de Kodak, des photos des enfants de Don Draper pendant leurs vacances. Tout le monde en sort avec la larme à l'œil. Don Draper vient de réaliser donc, ce qui me semble être une dimension centrale de la société de consommation américaine, c'est-à-dire de prendre un objet d'utilisation quotidienne relativement banal et de lui associer une dimension symbolique, voire même mythique. Et c'est quelque chose que les producteurs, les créateurs de cette série ont très bien compris, c'est que les Américains sont de grands consommateurs, c'est une société de consommation, mais une société de consommation qui a toujours aspiré à un ailleurs qu'elle n'a jamais vraiment su nommer.
Et je pense qu'on en parlera donc dans la prochaine émission, mais il y a une autre dimension qui recoupe celle-là, c'est le fait que la série parle non seulement de la représentation et des symboles, mais elle parle aussi évidemment de l'accession des femmes à la responsabilité, et je pense que la prochaine fois, nous parlerons du rôle des femmes dans Mad Men.
Et de ces deux personnages très importants que sont Peggy d'un côté et la chef des secrétaires...
Dont j'oublie le prénom aussi, mais...
De l'autre, qui sont vraiment deux faces de l'émergence des femmes dans la société américaine des années 60.
À suivre la semaine prochaine.